conserver la Constitution et les lois du peuple belge.
Ces 10 ans de règne, c'est d'abord l'histoire d'une transformation. Et il faut bien dire qu'il partait de loin, Philippe. Autant son père Albert II séduisait avec son côté jovial, autant lui avait une image, disons, stricte.
Je ne le sens pas assez près.
Philippe est un incapable.
Un prince formé par son oncle Baudouin plus que par son propre père, Vincent Dujardin, historien de l'UCL.
C'est vrai qu'en 1993, tout le monde s'attendait à ce que ce soit le prince Philippe qui devienne roi. Et ce fut Albert. Je crois que ça nuit, au fond, au prince Philippe, dans la mesure où ça peut susciter des questionnements. Pourquoi ce n'est pas lui qui est devenu le roi?
Un prince méconnu quand son père Albert règne, Patrick Weber, journaliste spécialiste de la monarchie.
Pendant 20 ans, les Belges ont relativement peu vu, peu connu Philippe. Philippe a été principalement en présence sur le théâtre étranger, c'est-à-dire en tant que super ambassadeur du commerce extérieur. Il y a vraiment eu un partage des tâches qui a été établi.
Philippe, que l'on dit tantôt timide, maladroit, tantôt doté d'une conception du pouvoir rigide ou autoritaire, un prince qui s'expliquait en 2006.
Parfois, derrière ce côté un petit peu réservé, il y a peut-être une grande sensibilité aussi. C'est souvent le cas chez les gens réservés.
Pierre-Yves Monnette, ancien conseiller au cabinet des rois Baudouin et Albert.
On a été vraiment très injuste avec le prince Philippe. Pourquoi? Peut-être que certains avaient envie d'affaiblir la monarchie. Jamais un successeur au trône n'a été scruté, critiqué, attaqué comme le prince Philippe. Jamais.
Patrick Weber.
C'était un peu carnet ni doun, donc ça va pas être possible. Hein. Et là, c'était le discours de la NVA. On va voir la catastrophe annoncée. Du côté sud, on le disait pas comme ça, mais il y avait quand même cette idée de dire, tiens, voilà, il est timide, il est un peu coincé, il est en retrait, ça va mal se passer. Philippe est un homme prudent, mettez-vous un tout petit peu à sa place. Hein. Pendant des années, tout ce qu'il a pu lire, entendre à son propos, il faut vraiment être blindé pour supporter tout ça.
Tout le monde se demande toujours s'il est prêt.
On verra le moment venu.
C'était un cercle vicieux. Plus les médias l'attaquaient, plus lui-même entrait dans un certain retrait et un mal à l'aise face aux journalistes et pire encore face aux caméras. Le prince Philippe, finalement, n'était pas le même en vrai que devant une caméra. Et donc, dès qu'il y avait un journaliste, il devenait gauche.
Intervient l'abdication de son père, 2013, et sa prestation de serment.
Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge.
Et là, tout change. Vincent Dujardin.
Très vite, les critiques, au fond, les discussions, les spéculations sont tues. Et alors, les années qui ont suivi, c'est intéressant d'observer que la même presse, qui parfois était vraiment critique sur le prince avant 2013, on a des titres dithyrambiques. Le roi Philippe a sauvé la monarchie. Ça, c'est le Knack en 2018. Dans le Morgen, le Standard, on le présente comme un roi moderne, hein, qui a modernisé la monarchie. Un roi inspirant, qui facilite la réconciliation. Du côté de la presse francophone aussi, on voit un parcours impeccable après son rôle dans la formation des gouvernements.
Pierre-Yves Monnette.
Il n'a pu sortir de ce cercle vicieux qu'une fois qu'il est monté sur le trône. Parce que là, les journalistes ont eu en face d'eux non plus un prince, mais un roi, avec quand même la déférence et le respect, même si on peut le critiquer, mais moindre, et pas de la même manière. Et lui-même s'est senti moins critiqué et beaucoup plus assuré parce qu'il avait la fonction royale. Et puis ce cercle vicieux s'est vraiment transformé en cercle vertueux. Et aujourd'hui, les journalistes eux-mêmes disent « il fait un sans-faute ». C'est la même personne.
Christian Behrendt, constitutionnaliste à l'ULG.
C'est une période sans faute, à mon sens. En tout cas, personnellement, je ne suis pas au courant d'un événement médiatique, protocolaire, diplomatique, politique, où il y aurait eu une décision où on se dirait que, fondamentalement, il y a eu matière à problème et que c'est le palais ou la royauté qui a causé un problème. Il a démenti ceux qui ont pu dire qu'ils n'étaient pas à la hauteur de la fonction.
De l'aveu de beaucoup, que l'on aime ou pas la monarchie, Philippe a réussi à endosser le rôle et à adapter la monarchie dans son époque, dans la limite de ses pouvoirs. On y reviendra.
Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge.
Qui dit monarchie constitutionnelle dit pouvoir défini étroitement dans la Constitution. Ainsi, le roi des Belges, comme l'on dit, règne mais ne gouverne pas. Christian Behrendt, constitutionnaliste.
Quand le roi décide personnellement, je crois que c'est une chose qu'il faut impérativement éviter, parce qu'alors si le roi décide personnellement, ça veut dire qu'il décide sans le filet de sauvegarde qu'est la responsabilité ministérielle. Non seulement c'est contraire à la Constitution, mais il risque aussi dans ce cas-là, évidemment, de se dégrader lui-même, parce qu'il s'expose alors lui-même directement à la critique. Et comme il n'est pas élu, il n'y a pas moyen de le sanctionner démocratiquement ou de lui faire comprendre alors par un procédé constitutionnel qu'il ne serait pas dans la bonne voie.
Membre de l'exécutif, le roi nomme et révoque les ministres. Il reçoit les prestations de serment du gouvernement fédéral et des ministres présidents des régions et communautés. Membre du législatif, il sanctionne et promulgue les lois, a priori simple formalité. Mais ses pouvoirs sont limités, il ne peut rien faire sans être couvert par son gouvernement jusqu'à ses discours, ce qui ne l'empêche pas d'avoir une vraie influence politique. Pierre-Yves Monette, ancien conseiller royal.
Il discute avec le gouvernement. Il a le droit de s'informer, d'exhorter, donc de pousser, ou à l'inverse, de mettre en garde. Allez-y, mollo, prenez du temps, postposez. Ce sont les trois prérogatives d'influence que la Constitution reconnaît au roi.
Un pouvoir symbolique qui compte, Vincent Dujardin, historien.
Je pense notamment à la diplomatie économique, qu'aime les liens avec Jack Ma qu'il a pu tisser. C'est comme ça qu'il peut lui passer un coup de fil au début de la crise du coronavirus pour avoir les masques. Et des centaines de milliers de masques sont arrivés quelques jours après. C'est une influence pour libérer des Belges emprisonnés à l'étranger. C'est parfois une influence pour que Raphaël Liégeois soit choisi comme astronaute. Pourquoi le Premier ministre belge est au fond le seul à avoir eu un entretien avec le président Zelensky à Bruxelles? C'est parce que le président Zelensky était reçu au palais.
Un rôle d'influence tout en nuances et discrétion, pour peu que le contenu des contacts, des rencontres entre le roi et le Premier ministre du lundi ou ses colloques singuliers demeurent confidentiels, ce qui n'a pas toujours été le cas ces dernières années. Pierre-Yves Monette.
Ce travail d'influence se fait à bureau fermé, dans ce qu'on appelle le colloque singulier. C'est ça qui fait l'alchimie de l'exécutif. Le roi et le gouvernement fonctionnent idéalement en symbiose et on ne sait pas ce qui se passe et c'est pour le meilleur résultat.
Mais c'est en période post-élection ou en cas de crise politique que le pouvoir du roi s'accroît. Christian Behrendt.
Il peut décider qui mène une mission.
C'est monsieur un tel ou madame une telle.
Il peut décider pour combien de temps, un mois, deux mois, ou écoutez, c'est ouvert et vous revenez régulièrement et je verrai alors au fur et à mesure. Et il peut dire sur quoi. Est-ce que c'est pour carrément envisager la formation d'un nouveau gouvernement ou est-ce qu'un instant d'antérieur pour régler tel et tel aspect le cas échéant. La désignation de telle et telle personne n'est pas nécessairement un choix personnel, mais surtout dictée bien sûr par la répartition des chaises et par les rapports de force politique, et c'est bien sûr très utile que ce soit comme ça.
Une action royale d'ailleurs saluée par tous, alors que l'on sait que former un gouvernement chez nous peut prendre du temps.
Vous n'avez aucun parti, même les partis séparatistes, qui refusent d'aller chez le roi. C'est intéressant, ils sont même demandeurs. Le Belang a été demandeur en 19 d'être reçu. Demandez un peu à des partis séparatistes catalans s'ils souhaitent des rendez-vous, ardemment des rendez-vous avec le roi d'Espagne. Je n'en suis pas sûr. Ici, ils considèrent que le centre de légitimité après les élections, c'est là. Et que c'est de là qu'émanent les impulsions.
Ajoutons aussi que le roi représente la nation en Belgique dans ses visites sur le terrain pour se rendre compte des préoccupations des citoyens, mais aussi à l'étranger, où le roi est aussi connu pour ouvrir des portes. Visite d'État, missions économiques. Pierre-Yves Monette.
Il y a des coups de fil qui se donnent, il y a des lettres qui s'écrivent, il y a des recommandations qui se font. Le roi peut mettre des acteurs belges en connexion avec d'autres à l'international auxquels le roi a facilement accès. Entre monarchies, passer par le palais peut aider.
Bref, quoi qu'on en dise, derrière une apparence parfois discrète, le palais sans pouvoir a tout de même un certain poids dans la vie du pays.
Messieurs, nous arrivons au terme d'une année qui nous a tous éprouvés.
Le roi parle, s'exprime avec autour de lui au palais une cellule de communication profondément transformée, renforcée en disant « Le roi est ainsi présent partout, Twitter, Facebook, Instagram, un site internet monarchie.be. Il apparaît là où on ne l'attend pas, il se met en scène, vélo, 20 km de Bruxelles, kitesurf ou peinture. » Patrick Weber, journaliste spécialiste de la monarchie.
Ce qui est très très nouveau, c'est que pour la première fois, le palais peut gérer lui-même une partie de sa communication, en fait. Il y a presque une concurrence entre le palais et les journalistes, parce que le palais peut décider tout d'un coup, en utilisant ses propres canaux, de diffuser des images. Quand Philippe fait du sport, hop, on diffuse les images. On se dit, jusqu'où peuvent-ils aller ?
Vincent Dujardin, historien.
C'est quand même Los Frequency sur le toit du palais un 20 juillet. C'est le roi Philippe à Tomorrowland. C'est le roi Philippe qui accepte de se mettre en scène dans un encouragement au Diable Rouge avant le mondial et une petite vidéo qui fera le buzz.
It's devil time.
Et donc, oui, là, il y a une innovation, une évolution, ce qui ne veut pas dire révolution. Il y a quand même toujours une réserve et un équilibre à trouver, justement, entre tradition et modernité.
Mais l'essentiel de la communication royale, cela reste les grands discours télévisés le 21 juillet et à Noël, discours de janvier au palais, au corps de l'État, des discours que l'on juge parfois un peu convenus.
Utilisons l'immense potentiel du dialogue. Dialoguer dans l'ouverture, c'est vouloir comprendre l'autre dans ses convictions et ses choix, même si on ne les partage pas.
Discours lisse, mais cela s'explique. Pierre-Yves Monette, ancien conseiller des rois Baudouin et Albert.
Le roi, de par sa communication, ne peut pas faire ce qu'il veut. La communication du roi est un acte politique. Parfois, certains pourraient se dire, on a envie que ça secoue un peu plus, mais le roi doit faire consensus. Le roi doit être le lieu où se fait l'unité du pays. Comment faire cette unité ? Mais c'est d'accentuer ou de focaliser sur les points qui font convergence. Alors, ça peut paraître un peu bateau, mais ça a une fonction indispensable de faire penser.
Patrick Weber.
Si vous revoyez quelques vieux discours du roi Baudouin, on le mettait derrière son bureau, et après ça, il parlait, et puis il disait Joyeux Noël, et c'était terminé. Philippe, maintenant, il y a plusieurs axes. On bouge dans le palais, on met des plans de coupe, hein, comme on dit. Maintenant, si vous voulez me faire dire que Philippe n'aura pas demain l'Oscar à Hollywood, non, il n'aura pas, clairement. Mais c'est pas son job non plus, en fait. Tout ça reste un peu rigide, voilà, on va dire les choses comme ça. Mais néanmoins, moi, je trouve que ça le rend plus crédible, parce que fondamentalement, Philippe, il peut pas mentir. Et je veux dire, il a ce qu'on appelle un body language, en fait, qui est assez évident. Quand il se sent mal à l'aise, on sent bien qu'il saurait dire. Il ne peut pas le cacher. Quand il est heureux, quand il est content et qu'il sourit, ça se voit parfaitement. Jusqu'à un certain point, vous pouvez peut-être faire évoluer quelqu'un, mais vous n'allez pas pouvoir le transformer tout le temps.
Le roi doit incarner unité, permanence de la nation, jouer les modérateurs de la vie politique, un rôle tout en nuances et en discrétion et sur la durée. Christian Berendt, constitutionnaliste.
Nous avons actuellement, par exemple, une coalition au niveau fédéral avec 7 partis, donc chaque ministre doit aussi pouvoir se retrouver dans la parole du roi. En même temps, si le roi est aperçu par la population comme n'étant que le roi d'une majorité, mais pas de l'ensemble de la population, ce n'est certainement pas non plus une bonne chose à faire. Donc, ça peut donner l'image du une volonté de consensualisme, c'est vrai. Cela étant, ça n'empêche pas, quand le gouvernement est d'accord, de poser un certain nombre de gestes politiques.
Et sur 10 ans de règne, on peut notamment penser à ce discours à Kinshasa, au Congo, le 8 juin 2022, devant le Palais du Peuple, où le roi présente des regrets très politiques, première vraie reconnaissance officielle, orale et publique des méfaits de la colonisation, œuvre notamment de son aïeul Léopold II.
Ici même, face au peuple congolais, et à ceux qui, aujourd'hui encore, en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé.
Un message qui a fait du bruit, beaucoup plus que certains discours plus traditionnels.
Petite entreprise, connaît pas la crise.
Le roi ne travaille pas seul, il est à la tête d'une véritable petite entreprise. Ils sont en fait des centaines à son service. Pierre-Yves Monette, ancien conseiller des rois Baudouin et Albert.
Le chef du palais, c'est le roi. Mais c'est pas lui qui va s'occuper de l'organisation. C'est pour ça qu'il a les hauts dignitaires. C'est toute une équipe qui fonctionne dans le but de permettre au roi d'exécuter la fonction royale.
Selon la loi, d'abord 35 collaborateurs directs, fonctionnaires ou diplomates qui l'assistent dans l'accomplissement de sa fonction de chef de l'État. Jusqu'à 300 personnes, si on compte secrétaires, archivistes, jardiniers, personnel d'entretien, de nettoyage, cuisiniers, domestiques, gardes du corps ou policiers fédéraux assurant la sécurité. Patrick Weber, journaliste spécialiste de la monarchie.
Il y a du monde qui travaille au palais, oui, certes, Maintenant, soyons quand même tout à fait raisonnables par rapport aux autres monarchies, c'est peanuts.
La maison du roi, c'est aujourd'hui 5 entités. Le cabinet du roi, on va y revenir, le secrétariat général, l'ex-grand maréchalat de la cour, une femme désormais qui gère l'agenda, coordonne les activités du roi au pays ou à l'étranger. La maison militaire, avec un général 4 étoiles, comme le roi qui est toujours commandant en chef de nos armées, il assure les relations avec la défense et les questions militaires. Vincent Dujardin, historien de l'UCL.
On sait qu'il y a un lien étroit aussi entre le roi et l'armée, vu qu'il est passé lui-même plusieurs années à l'armée, devenu pilote de chasse, à son brevet paracommando, et qu'on sait que l'armée était pour lui un moment heureux.
Autre département important, la liste civile, avec son intendant tenant les cordons de la bourse, sur base de l'argent alloué par l'État, enfin le secrétariat de la reine. Des gens triés sur le volet et respectant de savants équilibres, Pierre-Yves Monette.
Il y a d'abord un équilibre linguistique, autant de francophones que néerlandophones. Il y a un équilibre, je dirais, politico-confessionnel. Tout cela se retrouve parce que la Belgique, elle, est divisée. Et si le roi veut être le roi de tous les Belges, et si le roi veut aussi s'informer, la meilleure manière, c'est d'avoir autour de lui des gens qui connaissent les idées, les questions qui occupent l'esprit des différentes composantes qui forment la Belgique.
Le noyau, c'est le cabinet du roi, avec un homme incarnant les yeux, les oreilles du roi, le chef de cabinet, Vincent Dujardin.
Mais le chef des cabinets du roi, c'est vraiment le principal conseiller politique du roi. Il est en contact avec tous les cabinets ministériels, du gouvernement fédéral, parfois aussi des entités fédérées. C'est aussi lui qui l'épaule au moment de la rédaction des discours. On sait que le roi Philippe s'implique beaucoup lui-même dans la rédaction des discours, qu'il vient avec des textes qu'il écrit pour une part lui-même. Et dans ces moments-là, le chef de cabinet joue un rôle important aussi dans le moment de la formation des gouvernements. Il est en contact là aussi directement avec les présidents de parti et les différents ministres fédéraux.
Le roi est également entouré de conseillers diplomatiques, économiques, juridiques, un chef du protocole, chef d'orchestre de toute cérémonie, veillant à ce que tout se déroule comme prévu, des responsables de la communication, de plus en plus importante aujourd'hui, ou encore une directrice du service des requêtes et affaires sociales qui traite les demandes d'assistance adressées chaque année par milliers au roi ou à la reine. Patrick Weber.
Philippe n'a pas tellement délégué, et il aime bien être tenu au courant de tout. Il y a comme ça une espèce de contrôle avec beaucoup de réunions, et les collaborateurs du palais, pour ce que j'en entends, sont susceptibles d'être mobilisés n'importe quand. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de soirée.
Un beau petit monde choisi directement par le roi, Christian Behrendt, constitutionnaliste.
Le roi engage librement son personnel, on appelle ça des arrêtés de maison, qui sont signés par le roi, contresignés par le chef de cabinet. Et ce n'est que l'arrêté qui nomme le chef de cabinet qui lui est signé par le roi et contresigné par le Premier ministre.
Vincent Dujardin.
On peut certainement dire que c'est un des succès du règne du roi Philippe, c'est qu'il a réussi à choisir des gens de qualité, que ce soit Frans Van Dahl. Frans Van Dahl avait été le chef de cabinet du président du Conseil européen, avait une carrière immense à l'OTAN, à l'Union européenne. Pour Vincent Ossiaux, c'est la même chose. C'est un diplomate très expérimenté qui est passé dans les cabinets ministériels. C'est sa responsabilité. Donc si on dit qu'un roi a un entourage faible, c'est la responsabilité du roi. S'il a un entourage fort, c'est son mérite.
Un entourage qui s'est renouvelé, rajeuni et modernisé durant ces 10 années de règne. Parlons un peu d'argent et donc du coût de la monarchie qui fait polémique de temps à autre, à tort ou à raison. L'argent du roi, c'est ce que l'on appelle la liste civile, fixée selon la Constitution en début de règne, approuvée par le gouvernement et votée au Parlement. Pierre-Yves Monette, ancien conseiller des rois Baudouin et Albert.
Une fois qu'elle est votée en début de règne, on ne peut plus en changer le montant. Et la raison est simple, la Constitution a voulu interdire au Parlement de mettre le roi sous pression en diminuant ou en augmentant sa liste civile.
Ce sont les moyens financiers qui sont mis à sa disposition chaque année par l'État pour assurer l'exercice de sa fonction. Vincent Dujardin, historien.
En fait, le roi bénéficie d'une liste civile, mais qui n'est pas un traitement. Une très grande majorité de cette somme, peut-être 65-80%, sont consacrés à des frais de personnel, de jardinier, de technicien, de plombier, de traiteur, de secrétariat, d'huissier. Puis il y a bien sûr les frais de voyage, les visites d'État, les visites officielles, toutes les obligations qui incombent à sa tâche de représentation et qui engendrent des coûts. Et donc c'est ça, le coût de la famille royale en Belgique. Si on prend la liste civile, elle représente environ un peu plus qu'1 euro par Belge, par an. Money.
11 millions d'euros en 2013, 14 aujourd'hui, avec indexation et inflation, vu la large part de salaire de personnel qu'elle renferme. Christian Behrendt, constitutionnaliste.
Il n'y a pas de contrôle de la part de la Cour des comptes. Il est considéré que ce montant est correctement administré. N'oubliez pas qu'il y a bien sûr un intendant de la liste civile, qui est personnellement responsable, bien sûr, du bon emploi de ces deniers.
Deux tiers donc pour ce personnel, le reste part dans l'entretien des domaines, les activités et visites, chauffage, gaz, électricité, eau, parc automobile. L'État prend aussi en charge d'autres dépenses liées à la sécurité, l'entretien des demeures royales, des mobiliers et collections. Christian Behrendt.
Premier gros poste, c'est bien sûr, ce sont les activités de la famille royale. 25 millions, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben, tous les voyages royaux à l'étranger. Et aussi le personnel de surveillance, notamment la police, à peu près 15 millions.
Gestion rigoureuse et rien de bling-bling, surtout Patrick Weber, journaliste.
Philippe fait très attention justement à ne pas étaler trop de signes extérieurs de richesse. On a parfois chuchoté qu'après un bon repas, il n'avait pas rechigné par exemple un bon cigare ou ce genre de choses, mais ça ne se voit pas du tout en public. Il y a quand même cette idée qu'on ne doit plus tellement étaler la richesse. L'époque est passée par là. Pour Albert, c'était le prince playboy, il n'y avait aucun problème à avoir des grosses motos, de belles voitures, ça faisait la une des magazines et tout le monde trouvait ça normal.
Il faut ajouter que depuis une réforme de 2013, Albert II, Astrid et Laurent bénéficient de dotations. 1 million pour l'ex-roi, 390 000 euros pour Astrid, 370 000 pour Laurent, comprenant chaque fois rémunération et frais de fonctionnement contrôlés par la Cour des comptes. À l'avenir, seul le roi en charge et l'héritier et l'héritière auront de telles dotations. Elisabeth aux études n'en bénéficie pas encore. Dernier élément, Pierre-Yves Monnette.
Aucun de ses châteaux ou de ses palais ne lui appartient. Mais appartiennent soit à l'État, le palais de Bruxelles appartient à l'État belge, ou appartient à ce qu'on appelle la donation royale.
Institution publique autonome qui gère les biens légués par Léopold II à l'État et mis à la disposition du roi et de sa famille. Parc, château et serre de Laeken, château du Belvédère, du Steuvenberg et de Siergnon, le parc du Den à Forêt, mais aussi des bureaux à Bruxelles ou des terres agricoles louées pour assurer des rentrées à la donation. Résultat, Pierre-Yves Monnette.
Il est faux de prétendre qu'une monarchie coûte plus cher qu'une république. Et si on creuse et qu'on analyse la situation belge maintenant, on voit bien que la monarchie belge est une des monarchies qui coûte le moins au budget de l'État par rapport à toutes les monarchies européennes.
Tout cela est public, inscrit dans le budget de l'État chaque année, contrôlé par la Cour des comptes si nécessaire.